France Culture.
Lorsque l'on en vient à frapper avec une canne les corps qui gisent dans la salle de dissection, il est certain que cela prend une tournure plutôt bizarre. Sir Arthur Conan Doyle. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'en ira ce soir revisiter ses classiques en se consacrant à Sherlock Holmes et Mary Shelley. On peut d'ailleurs se demander où réside le classicisme, tant chez un criminologue consultant, dépressif, cocaïnomane et expert en mégots de cigares, que chez une couturière experte en assemblage de fragments humains décomposés. Au premier, après Frankenstein et Dracula, deux volumes et un album Pléiade sont consacrés grâce à Alain Morvan. De la seconde, François Rivière propose une anthologie de textes chez Bouquin. Holmes versus la créature, c'est ce soir dans Mauvais genre. Chronique en second temps d'émission, signée Élise Lépine et Paloma Hermina Hidalgo. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans Mauvais genre. Mauvais genre, bah oui, disons-le, qui revisite toujours avec plaisir certains lieux très très connus, mais jamais assez connus et toujours aussi fascinants et aussi magnétiques. Donc ce soir, Sherlock Holmes, le canon holmésien, et puis Mary Shelley, et des œuvres sûrement moins connues, mais tout aussi importantes que Frankenstein. Pour évoquer le premier, c'est-à-dire le locataire du 221B, Baker Street, Alain Morvan, bonsoir.
Bonsoir, François Angélien.
Troisième passage d'Alain Morvan à Mauvais genre. Donc, troisième.
Ouais.
Le premier, c'était donc pour la Pléiade Frankenstein et roman gothique. Un coup d'éclat inaugural. Vous transformez l'essai avec Dracula et les récits vampiriques. Et puis ce soir, c'est Sherlock Holmes. Donc, ça fait une. On va en parler de cette trilogie singulière au sein de la culture anglaise et de la mythologie fantastique.
En vérité, ça construit une continuité authentique. Puisqu'il y a chez Conan Doyle, et en particulier dans les récits de Sherlock Holmes, une dette réelle vis-à-vis du roman gothique, dont Mary Shelley a donné une très belle expression avec Frankenstein. Et puis, je dirais cerise sur le gâteau, lorsqu'on examine d'assez près le personnage du détective de Baker Street, on se rend compte qu'à plus d'un titre, il se rapproche lui-même du vampire.
N'en dites pas plus, c'est l'objet de cette émission. Bonsoir François Rivière.
Bonsoir.
Alors ce soir, pour un nouveau méfait, si j'ose dire, l'apparition chez Bouquin d'une anthologie Mary Shelley, Frankenstein et autres récits de terreur et d'anticipation. Autres récits de terreur et d'anticipation, parce qu'effectivement, un peu comme Conan Doyle et Sherlock Holmes, elle a été dévorée par sa créature, mais qu'à côté, elle a quand même abondamment écrit, notamment Le Dernier Homme.
Oui, elle a écrit
fonde une nouvelle romans, mythologie.
Plusieurs romans. Elle a tenu un journal. Elle a écrit des nouvelles qui sont magnifiques. D'ailleurs, le volume présente trois nouvelles entièrement inédites en France, en tout cas en français, qui montrent à quel point le talent de Mary Shelley était autre que celui d'une fantastiqueuse.
Ouais.
Avec Frankenstein qui effectivement l'a dévoré littéralement, bon, mais Le Dernier Homme qui est un des premiers romans de science-fiction littéralement, de même que Frankenstein d'ailleurs qui est aussi un livre de science-fiction. Mais ces nouvelles qui sont plutôt des nouvelles historiques montrent qu'elle avait un panel assez étendu et que cette femme au fond qu'on connaît très très mal avait un très très grand talent. C'est une des grandes romancières du 19e siècle anglais.
N'en dites pas plus, on en parlera donc dans l'émission. Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir François Angélier.
Alors ce soir, Sherlock Holmes, vous êtes une holmésienne, vous avez...
Oui, depuis très longtemps, je crois que j'ai commencé à lire Sherlock Holmes.
Vous avez commencé à lire dans Sherlock Holmes.
Haute comme peut-être pas trois pommes, mais à peine plus.
Voilà, et Frankenstein également, lecture peut-être un peu plus tardive.
Un peu plus tardive.
Mais assidue. Bonsoir Paloma, et pareil, vous êtes holmésienne ou... Qu'est-ce que vous en faites du couple Holmes-Watson?
Moi, ce serait plutôt du côté Frankenstein que je pencherais. Oui. Le mythe du créateur de sa créature, du golem éternellement revisité.
Voilà, ça très bien. Eh ben, c'est parfait. Welcome. La table est complète. Nous pouvons démarrer cette émission, et comme d'habitude, avec la vision, alors, Laurent-Paul Rienne, je ne sais pas, il faudra trouver un adjectif, Laurent-Paul Rienne, de la créature de Frankenstein.
Frankenstein! Bring him down to the village and let's take him home.
Voilà, il ne s'est pas fait dire, laisser les dire deux fois, Laurent Paul Rienne, voilà sa vision de Frankenstein. Alors on va commencer avec Sherlock Holmes, deux volumes dans la Pléiade, à quel point cette collection a muté. On parle souvent des mutants et des créatures. La Pléiade a véritablement muté grâce à vous à la Morvan, avec Dracula et Frankenstein. Et vous, d'une certaine façon, les choses continuent avec Sherlock Holmes. Vous avez donc dirigé ces deux volumes avec l'aide donc de Claude Aimé, Baudouin Millet et Michael Poplard. Et on y trouve donc dans ces deux volumes, plus l'album de la Pléiade de cette année qui est signé Baudouin Millet, on y trouve ce que l'on appelle le canon holmésien. Alors le canon holmésien, ça n'est pas ce qu'on imagine d'abord, c'est à l'image du canon évangélique, tous les textes sacrés, d'une certaine façon, validés, avérés et reconnus comme tels par l'holmésologie et peut-être aussi par Conan Doyle lui-même.
Exactement, c'est le corpus authentifié par les spécialistes et au premier chef par l'auteur lui-même. Un corpus qui n'est pas négligeable, 4 romans, 56 nouvelles, auxquels j'ai ajouté 4 textes dits extra-canoniques, 2 très courtes nouvelles où on voit apparaître, mais c'est plutôt de l'ordre, je dirais presque du canular de l'aimable plaisanterie, on voit apparaître Holmes et Sherlock qui se parodient eux-mêmes, et puis 2 autres textes de nouvelles plus longues où l'on voit à chaque fois intervenir à distance un détective qui n'est pas cité, mais dont on reconnaît à la façon dont il manie ce qu'il appelle dans le canon la science de la déduction, qu'il s'agit bel et bien du détective de Baker Street lui-même.
Alors il y a de nombreuses traductions de Sherlock Holmes. Il y en a une récemment chez Gallmeister dans la collection Littera. Et là, donc, vous en donnez une autre, une nouvelle, avec une équipe. Quels sont les problèmes que pose la traduction de Sherlock Holmes à la Morvan? Parce que c'est un texte écrit pour être, je dirais, partagé par le plus grand nombre. Oui. C'est paru dans la presse, dans les magazines. C'était pas un texte qui devait faire assaut de maniérisme et de difficultés littéraires. Quels sont un petit peu les problèmes qu'il pose
D'abord, je précise que c'est très vraisemblablement la première fois qu'il existe en français une édition complète qui est en même temps commentée. Ouais. Commentée, annotée, préfacée, avec tout un appareil critique. Voilà. Conforme à la tradition de la Pléiade. Alors, les problèmes que ça pose sont assez divers, mais le parti que nous avons pris avec mes co-traducteurs, était celui d'être fidèle au texte, de ne pas réécrire à la lumière des idéologies modernes, contemporaines, ou des modes qui vont et viennent, mais de traduire d'une façon qui exclut tout anachronisme, à savoir, d'une manière très catégorique, traduire un mot de l'époque par un mot français qui existait, qui était authentifié. À cet égard, nous avons largement fait usage du trésor de la langue française, du trésor informatisé, thésaurus, pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'un mot nous venait à l'esprit, nous puissions vérifier qu'il était bien en usage à l'époque, alors soit en 1887 pour le premier roman, soit en 1927 pour le dernier recueil, puisque c'est entre ces deux dates, cette fourchette.
40 années d'évolution de l'anglais.
Voilà, voilà. Et par ailleurs, l'un des problèmes les plus évidents, les plus significatifs qui pouvaient se poser, c'était celui de l'expression des échanges entre les personnages. Comment interagissent, par exemple, Holmes et Watson ? Il n'était pas question de les laisser se tutoyer. On sait le problème que pose, n'est-ce pas, le « you » en anglais, en traduction en français. On se souvient de l'époque où un ancien ministre humoriste disait que le président de la République française et le chancelier allemand se tutoyaient en anglais, ce qui est naturellement tout à fait impossible. Eh bien, de la même façon, il était impossible de laisser se tutoyer en français Holmes et Sherlock, parce qu'il y a en eux, et dans leur façon d'être et de se côtoyer, une sorte de respect réciproque, une retenue qui n'exclut en aucune façon l'amitié et qui est, d'une certaine façon, l'une des manifestations de l'éthique de l'époque victorienne.
François Rivière.
Les Anglais ne tutoient que Dieu, en fait.
Oui, thou, exactement.
Effectivement, tout à fait. Je trouve que c'est parfaitement... Le voussoiement est parfaitement normal. Et les deux personnages, quand même, se respectent. Enfin, ont une relation faite de choses assez diverses. Parce que Sherlock Holmes, c'est quand même quelqu'un d'assez compliqué, enfin, de difficile à suivre. Alors que Watson est plus dans la norme, si on peut dire. Et du coup, ils sont un peu comme chien et chat, quand même, hein, très souvent.
Ils sont très souvent comme chien et chat. On se rend compte, à la faveur d'une sorte d'épiphanie qui intervient dans une des histoires qui s'appelle Les Trois Garis d'Eb et qui se trouve dans le dernier des recueils que j'ai traduit par Les Archives de Sherlock Holmes. On se rend compte à un moment où Sherlock reçoit une balle de la part d'un malfaiteur et qui se précipite sur Watson. Il se précipite sur lui, l'œil déjà presque larmoyant, hagard, bouleversé, et lui dit « Watson, dites-moi que vous n'avez rien ». En effet, il s'agit d'une blessure tout à fait superficielle. Et Watson dit, eh bien ça, ce regard, cette affection qui me témoignait d'un coup, eh bien ça méritait bien toute une carrière de sarcasme que j'avais subie de sa part. Là, j'ai vu qu'il m'aimait vraiment.
Admirable. Élise Lépine.
Mais il ne lui a jamais dit élémentaire, mon cher Watson. Ça, c'est une légende.
C'est une légende.
J'ai appris avec stupéfaction.
C'est une légende, au demeurant, si l'on va par là, comme le chapeau, le fameux Deer Stalker, cette casquette à double visière, une devant, une derrière, qui est l'œuvre d'un des dessinateurs, Sidney Paget. Il avait été d'ailleurs précédé quelques mois plus tôt par un dessinateur œuvrant pour une publication régionale en Angleterre. Mais quand on regarde attentivement le canon, on ne voit à aucun moment trace de ce couvre-chef, Deer Stalker, donc, ce qui signifie littéralement chasseur de cerfs, pas plus qu'on ne voit trace du MacFarlane. La pipe, en revanche, elle existe bien. Le violon, il existe bien. La canne aussi. Mais il y a des accessoires que la postérité a ajoutés et qui finalement montrent à quel point on est face à un mythe qui ne demande qu'à prospérer, puisque chaque lecteur ou chaque artiste qui travaille dessus apporte sa propre contribution et l'enrichit sans le dénaturer.
Alors sur la genèse de Sherlock Holmes, Alain Morvan, on va demander au principal intéressé de s'expliquer et de nous communiquer quelques informations et reviendra sur ce qu'il nous dit.
With regard to Sherlock Holmes, I was, when I wrote it, a young doctor, and had been educated in a very severe and critical medical school of thought, especially coming under the influence of Dr. Bell of Edinburgh, who had most remarkable powers of observation. He prided himself that when he looked at a patient, he could tell not only their disease, but very often their occupation and place of residence. Reading some detective stories, I was struck by the fact that their results were obtained in nearly every case by chance. I accept, of course, Edgar Allan Poe's splendid stories, which, though only three in number, are a model for all time. I thought I would try my hand at writing a story where the hero would treat crime as Dr. Bell treated disease, and where science would take the place of chance.
Voilà la voix de Sir Arthur Conan Doyle témoignant de la manière dont il a inventé Sherlock Holmes, évoquant bien évidemment le professeur Bell, qui fut son professeur de médecine à l'époque où il faisait des études médicales, chirurgicales, et puis évoquant bien sûr le maître Edgar Allan Poe, Dupin, et on sait toute la richesse du legs d'Edgar Allan Poe et la manière dont il a été travaillé par Conan Doyle. Mais Alain Morvan, j'aimerais qu'on revienne. On connaît à fond cette histoire du docteur Bell, qui était prof, je crois, à Édimbourg, oui. De la faculté de médecine, et puis qui avait cette capacité de deviner par de menus indices quels étaient les personnages, d'où venaient qu'ils étaient.
La pathologie d'abord,
la pathologie,
l'œil, et puis effectivement l'environnement, la profession, et cela en observant simplement les doigts, le bas du pantalon, les genoux, dont Sherlock dit lui-même à plusieurs reprises dans le canon à quel point ils sont significatifs.
Voilà, donc c'est ce professeur Bell qui est la première, oui. Le matériau de départ de la méthode holmésienne, c'est-à-dire d'observer des traces matérielles et de remonter au-delà et de savoir à qui on a affaire. Néanmoins, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des autres composantes de la figure de Sherlock Holmes, notamment ce côté dépressif du personnage, cet usage, ce recours à la cocaïne, cet ultra-romantisme d'un violoniste qui va écouter les Sarrazades en concert, qui lui-même joue du violon. Parce que ça, c'est pas du professeur Bell. D'où viennent ces ingrédients psychologiques et cette espèce de marginalité sociale, voire de dandysme de Holmes, Alain Morvan?
Je crois que Conan Doyle a voulu mettre en scène un personnage cyclotymique.
Et pourquoi? Parce que normalement, un détective qui affronte le crime, attention, mais ça rigole pas.
C'est un personnage qui est double. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il est à lui-même parfois son propre double. Il y a sa part de lumière qui s'exprime par la rationalité. Et puis sa part d'ombre qui s'exprime par des penchants qui parfois nous font peur quand on regarde les choses de près. Il y a chez Sherlock Holmes, n'est-ce pas, cette exaltation à faire travailler le cerveau, à mettre en œuvre cette science de la déduction qu'il explique si bien et au début du premier roman et au début du deuxième. Et cette exaltation est telle qu'elle est suivie lorsque sa vie ne comporte plus de mystère à résoudre, qu'elle est suivie d'une phase de... Il est littéralement à plat, il est en état de manque, on peut employer cette expression...
De manque d'activité cérébrale.
De manque d'activité cérébrale, d'où et le mot manque, justement, nous oriente vers ce secteur-là, d'où son recours, qui n'apparaît pas au tout début, mais qui apparaît dès la première page du deuxième roman, son recours à l'addiction, en l'occurrence à la drogue. On le voit qui prépare une aiguille, une seringue hypodermique pour s'injecter de la cocaïne. Holmes est quelqu'un qui est sujet à des moments d'abattement. Et il n'est pas question, dans ces moments-là, de venir lui parler de quoi que ce soit. Il est prostré, il se renferme en lui-même et il faut toute la patience de Watson pour le supporter, ainsi que celle d'un personnage qui est tout aussi mythologique que Watson, dans l'entourage, même si elle apparaît moins souvent, c'est-à-dire Mrs. Hudson, Mrs. Hudson, qui est la propriétaire du 221 Baker Street, n'est-ce pas ?
François Rivière.
Oui, le côté dépressif de Sherlock Holmes, c'est étonnant. Moi, il me fait penser un peu à un acteur qui, entre deux rôles, Parce qu'il joue son propre rôle, et en même temps, il en joue plusieurs autres, puisqu'il se déguise très souvent. Il interprète des personnages pour mener son enquête, et lui-même, on a l'impression qu'il se cherche un peu quand même. Il a du mal même à se trouver, et par moments, il faut surtout pas qu'il échoue dans son travail d'enquêteur, sinon ça va plus du tout, quoi. Et Watson est là justement pour le réconforter, pour l'aider. C'est un peu l'habilleur, comme dans la célèbre pièce de théâtre anglaise, qui est là pour seconder, pour, c'est presque la nounou de Sherlock Holmes, qui lui permet d'exister de manière à peu près normale en permanence, quoi.
Oui, vous avez parfaitement raison. Il faut le dire, Sherlock Holmes joue à être Sherlock Holmes. On cite souvent la phrase de Sartre selon laquelle le garçon de café joue à être garçon de café. Eh bien, il en va de même de Sherlock. Et j'aurais tendance à dire Watson lui-même, qui est beaucoup plus profond qu'on ne le croit, beaucoup plus profond que certaines adaptations à l'écran ont pu le suggérer. Watson est un être d'une très grande profondeur, en vérité. Alors oui, il joue, et il est intéressant de voir que l'ensemble du canon est structuré par une métaphore qui est la métaphore de la scène. La scène au sens où l'on joue, où l'acteur joue dessus, n'est-ce pas ? Il est en représentation, il choisit son rôle. Vous avez parfaitement raison, François Rivière. C'est une sorte de Circé qui provoque ses propres mutations, ses propres métamorphoses, en quelque sorte. Et Sherlock est quelqu'un qui n'est jamais totalement lui-même. On ne le découvre que lorsqu'il a choisi tel ou tel registre. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est une toute petite anecdote, j'ai choisi, et en accord avec mes co-traducteurs, de traduire le titre de l'un des registres, des recueils de nouvelles, qui était habituellement traduit par son dernier coup d'archer. Il s'agit de His Last Bow, ou Bow. Il y a deux prononciations possibles, selon qu'on considère qu'il s'agisse d'un salut, oui. Bow, ou d'un archer ou d'un arc, bow, n'est-ce pas ? Il y a un double entendre naturellement voulu de la part de Conan Doyle, et nous avons choisi, après mûre réflexion, de nous écarter un peu de l'idée du violon, mais tout en la conservant, en disant « quand tombe le rideau », qui indique qu'on est bien sur une scène qui peut recevoir un instrumentiste, mais qui peut tout aussi bien recevoir un acteur en train de déclamer. Et oui, il y a, c'est une des nombreuses, enfin il y en a, elles sont pas si nombreuses, mais il y en a au moins trois ou quatre, une des métaphores qui sous-tendent réellement la structure de ces quatre romans et de ces 56 nouvelles.
Élise Lépine.
Pour revenir sur la question de la mélancolie et du côté ténébreux de Sherlock Holmes, je voudrais revenir au créateur. On apprend, donc on le savait déjà. Moi, je l'ai appris, je connaissais mal la vie d'Arthur Conan Doyle, qu'il est quand même, la mort est une compagne assez fidèle, obstinée à ses côtés. Est-ce qu'il perd beaucoup de personnes de son entourage ? Est-ce que cette omniprésence de la mort explique aussi le caractère ombrageux de sa créature ?
Je le crois profondément. Et je crois aussi que la mort explique l'évolution du personnage. On a tendance à l'envisager comme un personnage statique. Or, pas du tout. Quand on regarde le premier roman, Étude en rouge, c'est un jeune homme. Cet individu dont parlait François Julie tout à l'heure, qu'on voit en train de cingler les cadavres sur la table de dissection à la morgue, n'est-ce pas ? Un peu comme le docteur Septimus va cingler Guinea Pig dans La Marque Jaune. C'est vraiment, il y a, je crois, une filiation dans l'esprit d'Edgar P. Jacobs. Ce personnage a en lui, pour reprendre votre analyse, a en lui quelque chose de profondément morbide en raison de cette omniprésence de la mort qui va d'ailleurs devenir de plus en plus intense. Il perd sa femme, il se remariera ensuite, mais il perd sa femme. Et puis surtout, il y a, et cela va informer d'une manière très profonde la fin de sa vie, il y a l'épisode de la Grande Guerre. La Grande Guerre, dont il est le témoin très engagé, d'ailleurs, parce qu'il va visiter les différents fronts, front italien, front anglais, front français, etc. Il a le spectacle de la mort constamment sous les yeux, et puis il perd son fils, n'est-ce pas, et il perd quelques mois après son propre frère, si bien que la fin de sa vie est hantée par ce spectacle de la disparition des êtres chers, qui l'encourage d'ailleurs à persévérer dans une voie qu'il avait commencé à explorer plus jeune, qui est celle du spiritisme. C'est quelqu'un qui est... il a participé littéralement à ce qu'on appelait des séances, il était parfaitement conscient de l'originalité de sa démarche, mais en même temps il l'a revendiqué. Il pensait qu'on pouvait communiquer par des intermédiaires, par des médiums divers, qu'on pouvait communiquer avec une âme qui n'est plus de ce monde. Alors c'est très intéressant parce que, en vérité, ça, alors non seulement ça assombrit la fin de sa vie, ça apparaît d'une manière très flagrante dans le dernier des recueils, The Casebook en anglais, qu'on a traduit par les archives de Sherlock Holmes, où la présence des forces du mal, la présence de la mort, la présence de tout un côté prédateur, n'est-ce pas, qui est intégré dans le monde, dans la nature, qui recèle des forces tout à fait maléfiques, eh bien, tout cela renvoie à cet intérêt pour le mysticisme. Et d'ailleurs, on se rend compte, quand on regarde la façon dont il envisageait lui-même son œuvre, qu'en vérité, sa passion pour le mysticisme, et puis sa passion aussi pour d'autres formes d'écriture, parce qu'on n'a pas dit encore, mais il a une œuvre prodigieusement abondante. Un peu comme Mary Shelley, d'ailleurs. Il est une veuve très abondante. Il a écrit des romans historiques qui sont souvent très bons. Il a écrit des écrits... Il a publié des écrits de caractère, comment dirais-je, quasi journalistique, des témoignages sur les différentes guerres. Il écrivait à tout propos. C'était quelqu'un qui avait constamment la plume à la main, qui était un polygraphe. C'était pas du tout... c'était une obsession chez lui qui n'était pas pathologique. Hein. Ce n'était pas un graphomane, si j'ose de risquer ce terme, mais c'était un polygraphe, et un polygraphe qui était toujours talentueux. Et quand il réfléchit à son œuvre, à sa carrière, il se dit, mon Dieu, mais au fond, Sherlock Holmes, ça n'a pas d'importance, ou ça n'a qu'une importance très réduite. En vérité, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça, j'aurais mieux fait de consacrer mon temps à d'autres choses, en particulier mes romans, etc. Et c'est pour ça, probablement, qu'à un moment donné, il en a vraiment assez... Il en a assez de son Sherlock et qu'il le tue. Il le tue, heureusement pour nous, provisoirement.
Alors, il y en a un qui est, lui, increvable, passez-moi l'expression, c'est le docteur Watson, et notamment dans une scène comme cette dernière. Me trouveriez-vous impertinent si je soumettais vos théories à une épreuve plus sévère ? Au contraire, répondit-il, cela m'éviterait d'avoir absorbé une deuxième dose de cocaïne. Je serais ravi d'examiner tout problème que vous pourriez me proposer. Je vous ai entendu dire qu'il était difficile que quelqu'un se serve jour après jour d'un objet sans y laisser l'empreinte de sa personnalité, avec pour conséquence qu'un observateur entraîné puisse la déchiffrer. Or, j'ai ici une montre, entrée il y a peu en ma possession. Auriez-vous l'amabilité de me donner un avis quant au caractère ou aux habitudes de son ancien propriétaire ? Je lui tendis la montre, tout en ressentant au fond de moi un léger amusement, car il s'agissait à mes yeux d'une épreuve impossible, et j'entendais que cela lui serve de leçon eu égard au ton passablement dogmatique qui lui arrivait d'adopter. De la main, il soupesa la montre en regardant fixement le cadran, en ouvrit la partie arrière pour examiner le mécanisme, d'abord à l'œil nu, puis avec une puissante lentille convexe. C'est à grand-peine que je me retins de sourire de la déception qui se lisait sur son visage. Lorsqu'il finit par refermer le boîtier d'un coup sec et me rendit la montre. « Il n'y a presque pas de données à examiner, fit-il remarquer, on a récemment nettoyé cette montre. » Ce qui me prive des faits les plus révélateurs. Vous avez raison, répondis-je, on l'a nettoyé avant de me l'envoyer. Au fond de moi, j'accusais mon compagnon d'avancer une excuse fort bancale et piètre pour masquer son échec. Quelles données s'attendait-il à trouver dans une montre non nettoyée ? Bien qu'insatisfaisante, ma recherche n'a pas été totalement improductive, fit-il observer, levant vers le plafond des yeux rêveurs et éteints. Quitte à ce que vous me corrigiez, je dirais que cette montre appartenait à votre frère aîné, qu'il avait hérité de votre père.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait du signe, du chapitre 1 du signe 4. C'est pas demain qu'on va arriver à arriver son clou à Sherlock Holmes, surtout quand on est Watson. Alors parlons de Watson, Alain Morvan, dans l'article qu'il est consacré à votre deux publications, Xavier Houssin dans Le Monde dit, commence en disant d'abord Watson, c'est d'abord qu'il y a Watson. C'est vrai que, on parlait avec François Rivière, c'est un dispositif littéraire extrêmement diabolique, et en tout cas astucieux, qui consiste à voir toujours un petit peu Holmes par l'angle, la relation et les souvenirs de Watson.
En effet, le premier personnage que l'on rencontre à la première page du premier roman, qui parle à la première personne, c'est Watson. Watson qui vient de rentrer de la guerre d'Afghanistan, qui est blessé, qui est sans relation à Londres et qui cherche pour épargner ses maigres ressources, qui cherche un colocataire. Et c'est à ce propos, à propos de cette quête, qu'un de ses amis, ses anciens amis, lui dit « Mais je connais quelqu'un qui est dans le même état d'esprit, qui aimerait bien partager un logement avec un autre homme. » Voilà. Et c'est en effet, à deux ou trois exceptions près, Watson, qui d'un bout à l'autre du canon, va tenir la plume. Il va tenir la plume et il a l'élégance. Je crois que c'est délibéré de sa part, si l'on fait de la psychologie, si l'on extrapole de Conan Doyle vers le personnage de Watson, je crois que Conan Doyle veut qu'il ait l'élégance de paraître modeste. Il est fondamentalement modeste, mais il en rajoute un peu et il fait en sorte que les extravagances de Sherlock, que son extraordinaire vanité, enfin parlons plutôt d'orgueil, mais c'est un orgueil qui va parfois jusqu'à l'arrogance, souvent même jusqu'à l'arrogance, il fait en sorte que cette prestance intellectuelle du personnage soit en quelque sorte mise en relief par sa propre insignifiance. Je crois que, oui, Watson lui aussi joue à être Watson, et il en rajoute dans le domaine de la niaiserie. Alors qu'en vérité...
De la tête et les jambes, quoi, un peu.
Oui, on se rend compte qu'en vérité, c'est un personnage très subtil. C'est un personnage très subtil qui a le mérite d'être toujours là au bon moment. D'ailleurs, il y a un épisode dans les récits, un épisode où il n'est pas présent, et Holmes dit... Et je crois qu'il le dit en toute sincérité, ce n'est pas du tout une affaîtrie de sa part. Il dit « Ah, là, j'aurais vraiment eu besoin de mon Watson ». Et il compare le personnage du docteur Watson à ce qu'a été pour le grand auteur anglais du XVIIIe siècle, Samuel Johnson, James Boswell, qui était son chroniqueur, son biographe, et qui lui servait et également de, comment dirais-je, presque de tremplin, qui lui permettait, par la pertinence de ses questions, un peu comme fait Watson, parfois par ses bévues,
la fausse naïveté.
Qui lui permettait de mettre en lumière ses propres talents intellectuels.
François Rivière.
Oui, un grand fan de Sherlock Holmes, qui s'appelait Borges, et qui lui a consacré un poème, un très beau poème dans un de ses recueils, dit de Watson que c'est l'évangéliste de Sherlock Holmes. Et je trouve que ça, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir presque par moment, même si c'est un évangéliste un peu naïf. Mais est-ce que dans les évangélistes, justement, sont des récits qui peuvent passer pour un peu naïfs?
Et il est d'une totale... admiration, d'une totale loyauté, la foi en Sherlock Holmes est quelque chose qui ne le quitte jamais. Même lorsqu'il est irrité. Même lorsqu'il est irrité par le comportement de son ami.
Élise Lépine.
C'est une relation assez perverse, somme toute, de la part de ce Sherlock Holmes vis-à-vis de Watson.
Ah, il est probable qu'aujourd'hui on pourrait le qualifier, ce Sherlock, de pervers narcissique, absolument. Mais encore une fois, Watson accepte cette situation parce que Il sait que c'est bénéfique à Sherlock, dont il a décidé une fois pour toutes que c'était un don fait à l'humanité, puisqu'il pouvait résoudre les affaires criminelles les plus embrouillées. Donc il fait le sacrifice, en quelque sorte, de son propre ego pour se mettre entièrement au service de... Et du côté de Watson, il n'y a rien de pervers. Peut-être davantage du côté de Sherlock.
Was it you who sent me that communication?
I did, sir.
Out with it. Whatever it is you want me to hear.
I only want you to hear this zither, sir.
Zither?
He don't come no finer, sir.
What blasted impertinence. Getting me out here to... Look here, my man. You're up to something.
I only ask you to try him, sir.
Be careful. This thing's loaded. Who are you?
Well, I might ask the same of you, sir. Prowling around the moor, spying out on everybody.
That's my business, to spy.
Oh, what is it?
Yes, and if you want to know who I am, I'll tell you.
Who are ye?
I'm Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, the detective?
Yes, and now perhaps you realize why I can't be hoodwinked.
Oh, sir, 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 that changes everything.
Now, who are you? Quick!
Well, in that case, sir,
my name must be Watson.
Holmes!
How are you, my dear fellow? A fine detective you are, calling yourself Sherlock Holmes.
So you've
voilà,
been
le Sherlock Holmes hollywoodien, Nigel Bruce, et puis Basil Rathbone, qui ne joue plus les gros vilains, mais les détectives géniaux, donc dans un film de 1939, on peut terminer Alain Morvan en évoquant, parce qu'après tout, c'est un détective qui est censé résoudre des affaires criminelles ou autres. On est quand même dans cette Europe de la belle époque, de la fin de la période victorienne. On règle des affaires de chantage, de terrorisme politique, de courtisanes. Enfin, il y a un côté quand même, c'est une certaine époque à laquelle s'affrontent le Holmes et Watson.
Oui.
Certains types de problèmes.
Oui, oui, je crois qu'il faut, on a tout intérêt, en effet, à historiciser le canon. On voit, par exemple, à de nombreuses reprises, des allusions à telle ou telle crise. Il y a une allusion, à un moment donné, quasi transparente, à l'affaire de Panama en France, etc. On suit, d'une certaine façon, le déroulé des conflits dans lesquels la Grande-Bretagne est engagée, comme l'Afghanistan, comme après ça la guerre des Bourgs, à laquelle dont Conan Doyle a lui-même été témoin, puisqu'il s'est fait envoyer comme médecin, alors qu'il était déjà, c'est un homme à la réputation établie, qui pouvait parfaitement rester chez lui, il s'est fait envoyer comme médecin dans un hôpital destiné à soigner les soldats. Alors c'est effectivement une époque avec des allusions aux personnages contemporains les plus illustres, mais, et ça c'est assez typique de la démarche de Conan Doyle, et ça fait de lui, peut-on dire, un gentleman, il ne donne pas de nom. Il y a un récit que j'aime beaucoup, où effectivement il sauve en quelque sorte le prestige de la monarchie, Sherlock, sauve le prestige de la monarchie, il est reçu à Windsor, et il en revient avec une superbe épingle à cravate, qui est un bijou merveilleux. Et on lui dit, mais Watson, Holmes, ce bijou, etc. Il dit, n'allons pas plus loin. C'est une grande dame reconnaissante qui me l'a offerte. Et chacun comprend de qui il s'agit, bien entendu, la reine Victoria. Voilà, il ne donne pas les noms.
Ah ben nous, on va donner les noms. Donc, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes en Pléiade en 2 tomes, l'intégralité du canon holmésien, traduit sous la direction de notre invité Alain Morvan, de toute une équipe de spécialistes. Et puis, l'album de la Pléiade, cette année, pour la première fois, est consacré non à un écrivain, mais à un personnage. C'est bien évidemment Sherlock Holmes. Voilà, ne me demandez pas ce que nous venons d'entendre, c'est un des secrets. On ne donnera pas de nom. C'est comme à la cour des Windsor, on ne donnera pas de nom. Laurent Palleret me dit, c'est un vieux truc. Vous pouvez toujours lui écrire pour en savoir un peu plus. François Rivière, alors, avant de parler de Mary Shelley et de Frankenstein, je signale quand même un livre important, puisqu'il s'appelle « Confession d'un amateur de bande dessinée belge ». François Rivière, vous êtes scénariste de bande dessinée depuis un certain temps déjà, comme on dit. Vous êtes un classique même du scénario de bande dessinée. Et vous êtes... j'en jetterai autant qu'il me sera possible. Et donc, vous avez publié aux Impressions Nouvelles, donc maison d'édition dirigée par Benoît Peters, des confessions qui sont vos souvenirs des grands dessinateurs que vous avez rencontrés.
Ce sont des souvenirs, oui, de l'âge de 9 ans.
D'amateurs, d'historiens.
De 9 ans à 20 et quelques années. Ce sont en fait mes passions pour la bande dessinée belge et les rencontres que j'ai pu faire grâce à... la gentillesse de gens comme Hergé, comme Edgar Jacobs, que j'ai très bien connu, aussi Jacques Martin, qui était français.
On parlait du docteur Septimus, oui, là, vous avez Alain Morvan, qui a été un intime de Jacobs.
Oui, c'est vrai, le Septimus est quand même le savant fou le plus fabuleux de la bande dessinée, hein, c'est extraordinaire.
Sherlock a des côtés savant fou aussi.
Oui, mais bien sûr, oui, ils se rejoignent complètement. Mais voilà, non, mais c'est...
Et donc là, ce sont des confessions, je cite le mot quand même.
Ouais, c'était pour faire penser aux lecteurs des œuvres ô combien célèbres de Thomas de Quincey que les confessions de l'amateur de bande dessinée étaient un peu une confession d'un mangeur d'opium, hein, d'une certaine manière.
Un mangeur de bulles, un croqueur de bulles. Et donc là, on voit passer qui dans ce livre, François Rivière ? Dans vos confessions, qui sont les...
On voit passer les gens que j'ai rencontrés, notamment Hergé, qui était
Hergé, oui.
Un personnage, Jacobs, que j'ai connu dans les années 70, Jacques Martin, Raymond Machereau, qui était un magnifique dessinateur de séries animalières que j'aimais beaucoup, et d'autres moins connus, François Cranals, enfin bon, des gens qui, moi, m'ont bercé mon enfance et mon adolescence, surtout, et que j'ai tenu absolument à rencontrer de manière un peu obsessionnelle et que j'ai réussi à connaître. Et c'est, pour moi, c'est des beaux souvenirs.
Confession d'un amateur de bande dessinée belge de François Rivière, c'est aux éditions Les Impressions Nouvelles. Alors, Mary Shelley. Mary Shelley, Frankenstein et autres récits de terreur et d'anticipation. Si vous le voulez bien, on va laisser peut-être Frankenstein un peu de côté pour parler des autres récits de terreur et d'anticipation. Alors parlons de cela, parce que on peut le lire, il est en folio, et il est également, la traduction est reprise dans ce volume. Mary Shelley a inventé la science-fiction, ça c'est un peu la formule canonique, un peu aux chausse-pied qu'on utilise souvent, mais elle est à l'origine d'une autre mythologie, tout aussi importante et même encore plus importante, on peut dire aujourd'hui, c'est la mythologie de la littérature post-apocalyptique avec un texte qui s'appelle « Le dernier homme », qui constitue, disons, une grosse partie de ce volume. Est-ce qu'on peut parler de ce dernier homme ? Parce qu'il y avait quelqu'un avant qui avait un petit peu déblayé le terrain, c'est un auteur français, l'époque révolutionnaire, qui s'appelait Cousin de Grinville, qui avait aussi imaginé le dernier homme, le dernier Adam. Et là, elle consacre un fort, imposant roman à cette fin du monde et à ce témoin de la fin du monde, François Rivière.
Oui, Mary Shelley avait lu Platon, elle avait lu La République de Platon, et elle a mêlé cette influence, enfin, ce souvenir littéraire important pour elle. Elle qui était quand même, il faut le dire, la fille de deux monstres, elle-même ayant créé un monstre, de deux monstres sacrés de la vie culturelle anglaise de la fin du 19e siècle, du 18e siècle et du début du 19e, Mary Wollstonecraft, qui est la première féministe recensée, et William Godwin, qui est un personnage extraordinaire, hein, qui écrit beaucoup de choses, des pamphlets politiques, des romans gothiques, dont Caleb Williams, c'est un pur chef-d'œuvre, qu'on devrait rééditer d'ailleurs, parce que c'est sûrement une œuvre étonnante. Et Mary Shelley, donc, a été bercée dans son enfance. Et également, on peut parler des expériences que faisaient des médecins, le galvaniste, qui était reçu chez son père. Enfin bon, elle a vécu dans un bain de culture absolument incroyable, bain de culture qui émanait des idées révolutionnaires, parce que finalement les Anglais n'ont pas fait la révolution, eux, mais Mais les intellectuels anglais de la fin du 18e ont été marqués par les idées révolutionnaires. Et tout ça a mijoté dans sa tête quand même. Et elle qui était aussi... elle et son mari, le poète Shelley, qui est quand même un très 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 grand poète romantique, ont beaucoup lu des œuvres classiques, enfin, les auteurs antiques... Et en fait, est née dans sa tête cette espèce d'utopie. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une utopie. Ce livre étrange, qui est un roman de science-fiction, un des premiers, et même si elle n'est pas la seule, parce que Buller Lytton a écrit La race à venir. Enfin bon, c'est une époque où les écrivains anglais, les romanciers anglais, en dehors du roman, si on oublie un peu le roman gothique. Sont des gens qui ont créé des œuvres qu'on peut qualifier de fiction spéculative, réellement. Mode, si on peut dire, qu'on retrouve beaucoup plus tard, notamment en Angleterre, dans les années 50, 60. Il y a quelque chose d'absolument étonnant, une modernité absolument incroyable. Et dans ce gros roman, qui par moments un peu lourd quand même, hein, un peu, les Anglais ont un terme, c'est pedestrian, laborieux, quoi, un peu laborieux. Je sais pas comment on traduit.
C'est peut-être un peu méchant, moi. Je prendrais la. Permettez-moi là, amicalement, de prendre la défense de cette chère Mary, parce que si on voit aussi, si je peux intervenir une seconde.
Oui, non, mais intervenez.
Si je peux ajouter ce petit grain de sel, ce livre, qui est effectivement, il est long et il est parfois difficile à lire. Je n'irai pas jusqu'à dire ennuyeux, loin de là, mais il est marqué par quelque chose de fondamental dans la vie de Mary Shelley. Il est marqué par la solitude absolue qui l'étreint à la mort tragique en mer de Percy.
De son mari, le poète.
Et d'une certaine façon, le dernier homme qu'elle met en scène, c'est aussi elle. À quoi s'ajoute ? Mais alors là, c'est un peu, je dirais, presque de l'ordre de l'anecdotique. Enfin, nous nous en rendons compte maintenant, et elle ne pouvait pas le savoir. Mais elle a une intuition prodigieuse, c'est qu'elle a anticipé la dévastation que pouvait créer, y compris dans le monde moderne, on connaissait les pestes médiévales, mais là, il faut savoir que l'humanité est dévastée au point d'être réduite à ce dernier homme par une épidémie de peste qui vient de l'Orient. Et il me souvient que lors des années SIDA, on a commencé à se réintéresser particulièrement au dernier homme, parce qu'on trouvait qu'il y avait là quelque chose qui était profondément intuitif, et naturellement au moment de la pandémie de la Covid, c'est le même sentiment a guidé de nouveaux lecteurs vers cet admirable roman, j'en conviens pas.
Où elle fait revivre son mari, justement. Elle fait revivre Percy Shelley et Byron, enfin. Mais effectivement, c'est un roman, pour moi, oui, c'est un roman de science-fiction moderne, justement, alors que finalement, elle est dans une époque littéraire anglaise qui est quand même beaucoup plus psychologique. Elle s'évade de tout ça pour suivre une œuvre qui est quand même très étrange.
Parce qu'il y a une machine volante à un moment donné.
Oui, c'est de la science-fiction, vraiment. Enfin bon, on a l'impression qu'elle écrit des scénarios sur des comics américains.
Il faut lire ce roman parce que vraiment, c'est le complément de Frankenstein. Frankenstein apporte tout cet élément de la créature, le savant fou, le prométhéisme, je dirais, scientifique, avec le savant qui défie Dieu en créant lui-même sa créature. Et puis à côté, il y a l'apocalypse, la fin du monde, le dernier homme.
Frankenstein, c'est vraiment insurpassable.
Le premier homme et le dernier homme.
C'est le dernier. Enfin, lui aussi, c'est le dernier homme. Enfin, celui qu'on a créé et qui ne peut pas... Puis il sait qu'il va amener la fin du monde, littéralement.
Alors, les contes, les récits de terreur d'anticipation, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que là aussi, on les ignore largement. Est-ce qu'ils sont marqués par la veine gothique, donc chère à Alain Morvan? Est-ce qu'elle invente aussi un nouveau fantastique dans ses nouvelles?
Dans ses nouvelles, elle est plus proche du gothique que son père, justement, William Godwin, a pratiqué. Moi, je pense que, pour revenir deux secondes à Frankenstein, je pense que Frankenstein est un roman romantique plus que gothique. parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a voulu s'échapper justement à ce qui était vraiment plus qu'une mode, enfin une pratique romanesque, l'invention du gothique par Horace Walpole et toute cette production, etc., donc, qui caractérise pas vraiment ce qu'elle a voulu faire avec Frankenstein, ou qui est vraiment une sorte d'un romantisme échevelé avec un héros, Victor Frankenstein, qui est un pur héros romantique. Mais dans ses nouvelles, elle est beaucoup plus proche du roman historique. Là, elle était d'ailleurs très, c'était une très grande lectrice de l'histoire, l'histoire de l'Antiquité, quand elle était avec son mari en Italie, il lisait énormément. Enfin, et du coup, les nouvelles qu'on connaît mal, effectivement, de Mary Shelley sont plutôt des nouvelles historiques et un peu gothiques par moment, avec toujours une anecdote qui un peu originale, enfin ou même très originale, c'est-à-dire quelque chose auquel elle a pensé par rapport à sa vie profonde, qu'elle exprime assez peu finalement dans son journal, qui est très larmoyant, mais elle se réfugie beaucoup dans ses textes courts, mais dont certains sont absolument magnifiques.
Et qui porte la marque du grand amour de sa vie après Percy Shelley, à savoir un pays particulier qu'est l'Italie. Ces nouvelles, qui sont effectivement admirables, je partage totalement ce point de vue, sont très très marquées par le décor italien et par la culture italienne, dans un esprit effectivement très romantique.
Mary Shelley, Frankenstein et autres récits de terreur et d'anticipation, une anthologie consacrée à Mary Shelley aux éditions Bouquin et présentée, édition établie par François Rivière. On passe maintenant aux chroniques dans Mauvais Genre. On commence avec vous, Paloma Hermina Hidalgo, donc deux textes consacrés à...
Alors, place tout d'abord à « Dis-moi qui tu hantes », dernier roman d'Alban Lefranc. Un livre tombeau, un livre oracle, il loge un écrivain qui n'écrit plus, qui n'existe presque plus, mais dont l'ombre pourtant rayonne. Julien Mana, ventre énorme, sexe famélique, cervelle en feu, errant de Paris à Berlin entre alcool, hosto, bibliothèque déserte. Julien Mana, trois livres. Des caisses de manuscrits invendus incarnent tout ce que notre époque exècre. Il est libre, il est pauvre... Il est laid. Mais son chef-d'œuvre obscur, La vision dans l'île, agit comme un trou noir. Il engloutit tous ceux qui le lisent, les modèles à son image. Roman en somme sur les faits charnels d'une œuvre véritable, sur le tremblement qu'elle provoque dans des vies ordinaires. Mana est lui-même devenu ce qu'il a écrit, un être intraduisible, disloqué, sans bord ni sommet, et qui mourra, poignardé. Le talent d'Alban Lefranc est ici d'avoir délaissé le grand récit héroïque pour inventer un cœur de témoin. Sept voix, sept angles d'attaque cernant ce qui toujours échappe. Chacune porte une part d'admiration, d'effroi, de culpabilité, sans jamais parvenir à fixer Mana. Car ce Bolaño miniature, comme du reste la littérature qu'il incarne, est un phénomène de diffraction. Au moment où on croit le tenir, pouf, il s'efface. Alors, Alban Lefranc dresse ici le portrait d'un vivant en perdition qui, dans sa catabase, s'escrime à croire que la littérature peut encore, parfois, sauver ce qu'elle consume. En résulte un livre fracassé, miroir brisé, qui refuserait pourtant de taire son éclat. Lefranc invente une forme désossée, avançant par fragments, dissonance, épiphanie, apophtègme à la Saint-Simon, alternant l'incandescence des pointes et la morsure du trivial. Pas de narration continue, non, mais une polyphonie ressuscitant par angle mort, superposition et surtout par silence, le spectre bestial de Mana. Et la structure épouse ce dédale magnifique, trois époques, trois lambeaux de vie, narrés depuis un futur proche, 2032, comme si tout était déjà perdu. Dans un monde où la réussite se mesure en abonnés Insta, Mana demeure un rebut sublime et tout à fait dionysiaque. Il ne veut pas séduire, non. Il veut brûler. tentant dans un geste sublime de sauver quelque chose de l'expérience intérieure, là où tout, désormais, semble grignoté par le capital, le macronisme et la com. Et pourtant, quelque chose subsiste, une fois cabossée dans la nuit du verbe, plus vive que tous les triomphes éclatants. Dis-moi qui tu hantes, en est, avec acuité, la preuve tacite. Dis-moi qui tu hantes, septième roman d'Alban Lefranc, apparu en février 2025 aux éditions Verticales, et mentionnons également sept autres titres aux éditions du Typhon, cette fois roman de ronces et d'épines, où l'auteur Lucie Barat entrelace, elle aussi, création et destruction. Dans un château hanté de légendes et de spectres, deux sœurs entre broderie et chasse s'affrontent à leur destin. Barat, avec ce conte fantastico-courtois, tisse une chanson de toile féministe où le merveilleux se fait thanatique et l'art tout à la fois rédempteur et funeste. Une féerie venimeuse, joyau de sensorialité et métaphore galeuse, lit-on, de la fatalité féminine, à moins que... Roman de ronces et d'épines de Lucie Barat, apparu en 2024 aux éditions du Typhon.
Merci Paloma. Élise.
Moi, je voudrais parler d'une collection de textes que fait paraître le média culturel en ligne Zone Critique, qui défend la création contemporaine. Et cette collection s'appelle Vrille, au pluriel. Alors, plusieurs auteurs et autrices sont déjà signés dans cette collection, comme Frédéric Perrault, Nicolas Chemla, Clémentine Hennel, qui sont des nouvelles voix de qualité. Et Zone Critique fait paraître un court texte par mois. C'est une novella d'une cinquantaine de pages, disponible en version papier sur un abonnement pour 7 euros. Alors, comme le dit l'éditeur, c'est la moitié d'un paquet de cigarettes. Et on suppose que c'est moins nocif pour la santé. Néanmoins, moi j'ai lu « Je punirai le monde » de Jennifer Kerner, le tout nouveau Vrille, et je peux attester de sa nature sérieusement corrosive et perturbante pour l'organisme comme pour l'esprit. Alors je sais que vous aimez comme moi Jennifer Kerner, François,
oh, oui.
Cette thanato-archéologue extrêmement douée à la fois pour nous parler de manière scientifique des rites mortuaires du monde entier dont elle est spécialiste, comme elle l'a fait dans son essai « Le mari de nuit » publié chez Gallimard en 2023, mais elle a aussi une très belle, une grande voix littéraire qu'on avait adorée dans « Le tissu de crin », ce roman gothique d'ailleurs, hyper dérangeant qu'il faut lire absolument, sorti au Mercure de France l'année dernière. Évidemment, on la retrouve dans une histoire épouvantablement dark, mais aussi très documentée, qui met en scène une influenceuse marquée par le mal-être, le sentiment de rater sa vie, vous savez, qui rentre dans une boutique ésotérique dans l'optique d'acheter un attrape-rêve. C'est ces petits objets là qui capturent les cauchemars amérindiens. Et puis elle se retrouve après avec une lampe en sel de l'Himalaya, avec des cristaux pour purifier l'air, avec une brume anti-entité maléfique, des recettes de gâteaux de clairvoyance, et puis finalement une dague de sorcière assez redoutable avec un manche en obsidienne. Et cet objet rituel va lui permettre de rejoindre un cercle très fermé de sorcières menées par un gourou adepte de Lucifer. Assez flippant aussi, et j'en dis pas plus, mais le récit se précipite très vite et très fort vers une fin ultra-violente, du genre de celles qui reviennent vous hanter le soir quand vous essayez de fermer les yeux pour vous endormir. C'est évidemment impressionnant, c'est aussi riche en réflexions sur notre monde contemporain. En grande spécialiste des rites, des croyances, Jennifer Kerner explore à la fois l'ésotérisme, un peu soft, la mode des sorcières prônée par les réseaux sociaux, mais aussi leurs dérives. Elle évoque l'impuissance ou les failles de la psychanalyse et de la psychiatrie traditionnelle, les véritables dangers de l'occultisme, les ravages du capitalisme et les mécanismes fragiles de nos santé mentale. Tout ça extrêmement bien écrit, bien mené, très fluide et en moins de 50 pages. Donc moi je pense qu'on peut appeler ça un sacré tour de force. Je rappelle qu'on peut et qu'on doit s'abonner à Vrille via le site internet de Zone Critique. Vous tapez zonecritique.com, j'imagine, dans un moteur de recherche et vous devriez trouver toutes les infos comme par magie. Mais enfin, n'abusez pas trop quand même de la sorcellerie.
Et de la magie, sauf la magie éditoriale. Merci Élise. Moi, je recommande dans cette collection Cellules de Norman Django. Je ne vous en dis pas plus, vous n'avez qu'à taper voilà. Comme il faut. Merci Alain Morvan.
Merci à vous.
D'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour ce Sherlock Holmes en Pléiade. Merci François Rivière pour cette Marie Chalet chez Bouquin. Je rappelle également Confession d'un amateur de bande dessinée belge. C'est aux éditions Impression Nouvelle. Alban Lefranc, Dis-moi qui tu hantes chez Vertical. Lucie Barat, Roman de ronces et d'épines au Typhon. Jennifer Kerner, Je punirai le monde. C'est chez Vrille. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Anthony Thomasson, Claire Poinsignot, Élise Lépine, Claire Martin-Dugard, Paloma Hermina Hidalgo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.